et légendes iraniens. Le conte existe depuis sûrement aussi longtemps que la pensée imaginaire de l'homme. Ainsi, bien avant que l'homo sapiens ne sache lire et écrire, le conte se transmettait-il par la parole. Ses origines se rattachent donc d'abord à l'oral, avant que ne le retrouve dans la littérature, écrit dans des livres de contes pour enfants. Ce furent, en Europe, du XVIIIe siècle, les frères Grimm, Jacob et Wilhelm, qui s'adonnèrent les premiers à la collecte de ces contes, tandis qu'en Iran contemporain, Sopi, conteur et écrivain, se consacra à cette tâche. La diversité des contes populaires est telle que pour faciliter leur tâche, les chercheurs les ont répartis en deux ou trois grandes catégories qui, à leur tour, se ramifient en plusieurs branches. L'image et l'imaginaire constituent l'axe principal d'une grande partie des contes et des histoires, axe autour duquel pivote le thème du conte. Faute d'image, l'histoire perd de son charme. Le héros se trouve en plein pays de merveilles, s'aventure dans les événements les plus fantastiques, surmonte les obstacles les plus incroyables et rencontre les êtres les plus fabuleux. Ces contes exercent un tel attrait sur leur auditoire que grands et petits oublient pour quelques instants la réalité pour s'envoler dans le pays des merveilles. Un autre genre des contes puise dans la vie même de la population. La réalité se trouve au centre de ces histoires qui relatent la vie quotidienne avec un sel d'exagération, en mettant ainsi en relief certains points sans pour autant s'écarter du réel. Les mythes et les épopées historiques constituent cette troisième catégorie de contes. Le héros courageux et noble combat le mal dans ses plus variées manifestations avec en toile de fond l'histoire, un mélange de contes et d'histoires épiques. En Iran, le conte est une vieille tradition qu'Hérodote avait déjà soulignée, et tout au long de leur histoire mouvementée, les Iraniens ont fait porter à leur récit la marque d'une culture qui variait avec le temps. Ainsi, dans la Perse antique, les légendes et les contes étaient-ils fortement influencés par la culture de cette époque? Après l'avènement de l'islam en Iran, les contes connurent un grand essor. C'est justement ce temps-là que Kalilah Dimna, ou les fables de Bitpai, qui avaient été traduits du sanskrit en Pehlavi, fut traduite en arabe et que mille contes et les mille et une nuits furent introduits en langue arabe en Iran. En outre, parallèlement et progressivement, se créaient de nouveaux récits en dialecte local, faisant revivre le folklore de certaines régions ainsi que les rêves et les désirs de leurs habitants. Et jusqu'au milieu de ce siècle, chaque village, chaque famille comptait au moins une personne possédant un riche répertoire de contes qu'elle narrait pour le plaisir et l'instruction de son auditoire. Le conte remplaçait ainsi la lecture. De nos jours, cette transmission de contes par voie orale est en cours de disparition, des masses médias se substituant aux procédés traditionnels. Des contes sont diffusés à la radio et à la télévision, d'autres sont édités dans des journaux ou dans des revues spécialisées sur le folklore. De même, un certain nombre d'ouvrages ont été publiés afin de regrouper des récits provenant d'une même province ou racontés dans le même dialecte. Les recherches effectuées sur les contes populaires iraniens montrent que leurs auteurs n'étaient pas des gens simples, mais que c'étaient des poètes et écrivains inconnus, perdus dans la population, des hommes de lettres qui vivaient parmi le peuple. Ils ont fait du langage populaire leur propre langue pour véhiculer leurs pensées. Le style adopté par ces écrivains et poètes anonymes frayait son chemin parmi la population qui pouvait trouver dans ses chansons et histoires ses propres croyances et idées. Ces contes sans signature étaient propagés de bouche à oreille dans la société, voire dans le monde entier. Bien que le nom des auteurs de ces contes nous reste inconnu, les sciences humaines, telles la sociologie, la linguistique, la psychologie, l'ethnologie, nous viendront en aide pour en tirer de nombreux indices sur les conditions sociales et historiques, sur les us et coutumes, le mode de vie et toute une foule de données sur l'auteur et la période qu'il vivait. Ces histoires, qui ont pour décor la vie quotidienne de la population, qui brossent les joies et les souffrances des gens du quotidien, constituent, pour les chercheurs, une source inépuisable d'informations sur les peuples. Les contes populaires marquent une grande préférence à la morale, aux conseils et sentences, pour ainsi montrer à la future génération la voie juste qui pourrait la conduire vers une vie heureuse et équilibrée. Les créateurs de ces contes évoquent la lutte éternelle du juste contre l'injuste, le vrai contre le faux, le bien contre le mal. Leur jeune auditoire pourra discerner grâce à ces histoires le bien du mal, connaître à travers les héros et leurs aventures les vicissitudes de la vie, la sagesse, la vertu et la clémence, et s'écarter de tout ce qui incarne le mal. Les contes de ce genre sont en vogue aussi bien en Orient qu'en Occident. Le bien triomphe toujours du mal pour montrer que le bien sera récompensé et le mal châtié. Les auteurs de ces histoires, ces hommes sages, formés dans le creuset des épreuves de la vie, transmettent ainsi leurs expériences, leur sagesse, aux enfants qui détiennent dans leurs petites mains le sort du monde. Il était une fois un très beau paon qui traversait par un beau jour de Dieu la forêt. Il s'acheminait sur un sentier qui le conduisait vers un lac dont l'eau limpide brillait comme un diamant sous le soleil matinal. Le pan de notre histoire avançait lentement sous l'ombre fraîche des arbres qui étendaient généreusement leur resplendissant feuillage. Et il regardait de gauche à droite les belles fleurs qui embaumaient l'air de leur parfum exquis. Le bel oiseau arriva enfin au bord du lac et il se regarda dans l'eau aussi claire qu'un miroir. Il fut très étonné de l'image qui se reflétait. Il se trouva très beau. Il ouvrit les plumes et il fut encore plus surpris de sa queue, qui était un éventail de 1000 couleurs. Il se pavana un moment et se dit « C'est magnifique, comme je suis beau !» Quel splendide plumage! Quelle couronne admirable! C'est incontestable, je suis le sultan des oiseaux. Il faut que tout le monde s'incline devant moi, me respecte et m'obéisse. » Après ces réflexions, loin de toute modestie, le paon reprit son chemin. Mais cette fois-ci, son allure avait changé. Il avançait avec une telle arrogance qu'il ne daignait même pas regarder sous ses pieds, ses pattes. Soudain, une même ampoule et toute sa couvée brillante, occupée à picorer, apparurent sur le chemin. Le paon cria « Attention, écartez-vous, écartez-vous !» L'oiseau vaniteux avançait sans même faire attention au petit poussin qu'il foula de ses pieds. Les pauvres petits poussins poussaient des cris de douleur. Leur maman les prit doucement sous ses ailes en essayant de les consoler. Le paon continuait son chemin et croisa sur l'autre bord du lac un pélican qui, les yeux mi-clos, debout sur un seul pied, se reposait après un copieux repas. Le paon, en s'approchant du pélican, le heurta. Le pauvre pélican tomba par terre. Le paon éclata de rire et continua son chemin. Tout à coup, un bruit très fort se fit entendre. Le paon regarda à droite puis à gauche, mais il ne remarqua rien. Le bruit se fit plus fort et même terrible. Le paon regarda le ciel. Les nuages assombrissaient l'horizon et le soleil s'éclipsait dans son zénith. Le paon voulut poursuivre son chemin, mais une force plus puissante le poussait vers l'arrière. Il faisait maintenant très froid et le vent soufflait très fort. La maman poule appela ses petits poussins. Allez, allez, dépêchez-vous, mes enfants. Il faut rentrer. Le vent est très fort et il va pleuvoir dans un instant. » Le paon qui entendait la poule éclata de rire et dit « Je suis fort et grand. Je suis le sultan des oiseaux. Je ne crains pas la tempête. Je ne me sauverai pas. » Le paon resta donc debout sur le chemin du vent et le vent soufflait encore plus fort. Soudain, une plume de l'aile du paon se détacha, puis une autre et une autre. Ce fut ensuite autour des plumes de sa queue. Le paon voulut s'enfuir, mais le vent ne le permettait pas. Il entendit au milieu des sifflements du vent un canard qui l'appelait, criant « Viens chez nous jusqu'à ce que la tempête s'apaise !» Le paon lui jeta un regard dédaigneux et dit « Pis de ces paroles futiles, moi le sultan des oiseaux, me rendre dans ton nid misérable avec ses plumes si longues, tu n'es qu'un pauvre faible canard. Quant à moi, je suis fort. Je continuerai mon chemin jusqu'à mon nid. Il n'est d'ailleurs pas très loin. » Le têtu paon poursuivit donc son chemin, mais il perdit encore quelques plumes. Il arriva devant le nid de la maman poule, qui l'invita à se mettre à l'abri. « Oh, le paon, viens ici, tu vas perdre tes plumes. Notre nid te protégera du vent et de la pluie. » Le vaniteux paon, qui était transi de froid, continua sa route, sans daigner même répondre à la poule. Il avançait d'un pas, mais le vent le poussait en arrière de deux pas. La tempête ne cessait pas, et devenu... Il avançait d'un pas, mais le vent le poussait en arrière de deux pas. La tempête ne cessait pas et devenait plus forte, de sorte que tout ce qui restait encore du beau plumage se détacha, et le paon ne fut en quelques instants qu'un oiseau sans plume. À ce moment-là, un perroquet qui se trouvait sur une branche d'arbre éclata de rire et montra du haut de son perchoir le pauvre oiseau. « Regardez donc le paon sans plume ni couronne !» Furieux, le paon accéléra le pas et s'éloigna de l'espiègle perroquet. Harassé, le paon déplumé s'appuya à un arbre sans se rendre compte qu'il avait détruit une ruche d'abeilles. Très en colère, les laborieux insectes l'attaquèrent et le piquèrent. Le pauvre paon cria de douleur et s'enfuit vers la forêt. Les abeilles le poursuivirent un moment, puis l'abandonnèrent à son sort et retournèrent vers leur ruche. Le paon déplumé, le corps meurtri par les piqûres et de surcroît transi de froid, se laissa tomber à terre. Il gémissait. Hélas, quel sort! Si seulement j'avais un plumage noir, comme celui du canard, ou bien blanc, comme la poule. Maintenant, le vent était tombé, les nuages s'étaient dispersés, le ciel se dégageait, et le soleil apparut de nouveau au beau milieu de la voûte céleste. Le paon s'assit et commença à réfléchir. Il regarda ensuite son corps. Il croyait rêver, il ne pouvait pas y croire. Son corps était de nouveau couvert d'un beau plumage. Il cria de joie et se dit « Dieu soit loué, j'ai retrouvé mes plumes. Le Seigneur a exaucé ma prière. Dès lors, je resterai humble devant les autres oiseaux et je ne me moquerai jamais de personne. »